Alors, on va pouvoir démarrer cet après-midi sur des retours d'expérience. Donc, là, on a pris un petit peu de retard, mais je pense que personne ne le regrettera. J'espère, en tout cas. Moi, en tout cas, je ne le regrette pas. Et donc, on va procéder par des retours d'expérience rapides. On va vous demander de nous présenter vos projets en 10 minutes à chaque fois. Et on va vous demander de garder vos questions pour le forum. C'est-à-dire que chacun des projets aura un espace dédié. Donc, on vous amènera effectivement dans l'espace café, le futur espace café de la médiathèque, et de poser vos questions, voire même les questions les plus pratico-pratiques en fait, que vous aurez préparées. Donc on va commencer par Cécile Denier, organiser des ateliers de conversation. Est-ce qu'on est prêt au niveau régie? Il y avait un PowerPoint, me semble-t-il. Alors, il est là, mais pas là.
Bonjour à tous, donc je démarre cette table ronde en essayant de respecter le timing. J'ai 10 diapos, 10 minutes de conversation à la BPI et ailleurs, puisque, comme vous le savez sans doute, cette médiation se développe dans beaucoup d'autres bibliothèques maintenant, ce dont on est très content. Alors les ateliers de conversation, c'est une idée très simple en fait, qui nous est venue il y a quelques années. C'est tout simplement proposer des rendez-vous réguliers à la bibliothèque pour échanger, pour discuter, pour converser, comme son nom l'indique. L'objectif initial, c'était améliorer sa pratique de la langue orale, donc en français, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, mais pourquoi pas dans d'autres langues, puisque nous, on le propose aussi en anglais, en espagnol, en portugais. Le tout animé par une personne dont c'est la langue maternelle. On n'a pas non plus besoin de matériel informatique, on n'a pas besoin non plus d'une préparation très longue avant chaque atelier. Moi je dis souvent une demi-heure maximum, mais je sais qu'on peut faire en beaucoup moins, on va dire entre 3 minutes et une demi-heure. On a besoin éventuellement d'une salle pour être un peu tranquille, mais je sais que dans beaucoup de bibliothèques ça se passe dans les espaces de la bibliothèque quand celle-ci est fermée, ou même quand celle-ci est ouverte, quand ça s'y prête. Des chaises quand même pour s'asseoir, éventuellement quelques photocopies, mais ce n'est pas indispensable, et une petite équipe de bibliothécaires motivés pour assurer ces ateliers. Donc une idée simple, mais qui correspond à un vrai besoin, donc qu'on avait ressenti, nous, depuis déjà pas mal d'années. Et à l'auto-formation, vous savez, on propose des méthodes de langue en auto-apprentissage, les lecteurs nous demandaient très souvent des méthodes pour améliorer leur oral. Et on était bien embêtés parce que même les méthodes les plus performantes, les plus intéressantes, ne sont pas tout à fait adaptées à la pratique de l'oral. On peut travailler la compréhension orale, la phonétique, pour converser, il n'y a rien de mieux qu'un humain. Les ordinateurs ne sont pas tout à fait adaptés à ça. On s'était rendu compte aussi qu'il y avait très peu d'équivalents ailleurs. Les écoles de langue proposent parfois des cours d'oral ou des ateliers de conversation, souvent payants, et souvent plutôt réservés aux personnes qui ont un bon niveau. Or, ce n'était pas trop, nous, notre objectif. On souhaitait des ateliers qui soient accessibles à peu près à tout le monde, dans la mesure où on a dit qu'il y a un fort besoin de convivialité, de rencontres dans nos villes et ailleurs, et les bibliothèques peuvent être un lieu pour ça aussi. Donc, comment avons-nous procédé? Ça a démarré en été 2010 à la BPI, donc ça fait bientôt 7 ans, avec le français langue étrangère. Donc c'est moi qui ai lancé la partie FLE. Et j'étais avec une collègue hispanophone d'origine argentine qui a lancé l'espagnol. Et puis ça a tellement bien marché tout de suite qu'on a très vite étendu à l'anglais, à l'allemand, maintenant on ne le fait plus, au portugais, au chinois et en russe. Les langues entre parenthèses, c'est celles qu'on a testées, mais que malheureusement, on n'a pas pu continuer pour des raisons de... Très vite, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, c'était trop compliqué. Donc maintenant, il suffit juste de venir sur place et d'inscrire son nom entre 15 et 45 minutes selon les langues. On limite à 15 personnes maximum, au-delà, ce n'est pas possible de parler. Et on a très vite aussi multiplié le nombre de séances par semaine, vu le succès. Nous proposons 2 séances d'anglais par semaine et 3 séances de français. Les animateurs sont formés en interne par mois, et que ce soit les vacataires ou les titulaires, mes collègues titulaires intéressés par cette médiation. Et donc depuis 7 ans, nous connaissons un grand succès dans ces ateliers, grand succès auprès des usagers, c'était l'objectif, mais ce qu'on ne soupçonnait peut-être pas forcément, grand succès auprès des bibliothécaires qui, comme le disait Yann Marchand ce matin, égoïstement, en profitent aussi beaucoup. C'est vraiment des ateliers tout à fait enrichissants, passionnants pour nous aussi. Les participants, donc, comme je le disais, viennent initialement, c'est souvent leur première demande, pour améliorer leur français, pratiquer l'oral, et repartent avec des amis. Ils s'échangent leur numéro de portable, leurs adresses mail. Enfin, il y a vraiment le second objectif de convivialité est tout à fait rempli. Ailleurs, nous nous rendons compte depuis quelques années que ça se multiplie aussi. Nous avons plein de demandes de conseils, de demandes de formation, d'observateurs qui viennent voir comment nous faisons. Donc, j'ai cité quelques bibliothèques, mais je suis en région parisienne et à Paris. L'atelier porte plusieurs noms différents, Café Blabla, la Parlotte, la Spicote pour l'anglais. Je trouve ça bien trouvé. Le Café des langues ou les ateliers de conversation comme chez nous. Et depuis 2016, avec ma collègue Éléonore, organisatrice de cette journée, co-organisatrice de cette journée, nous avons mis en place des ateliers échanges de façon à discuter autour de cette pratique, former éventuellement les personnes qui ne se seraient pas encore lancées mais qui souhaiteraient le faire et discuter avec ceux qui l'ont déjà fait. Grand succès aussi de ces formations échanges, puisque nous en avons fait 4 qui étaient remplies, on a refusé du monde. Donc 2 autres sont prévues à la rentrée, si jamais ça vous intéresse. C'est une question qu'on nous pose souvent. Souvent, nous faisons un tour de table, pas forcément, ça dépend des animateurs, avec des présentations notamment des nouveaux. Souvent, l'animateur lance un sujet qui peut être n'importe lequel. En fait, vous comprenez bien que le sujet, c'est tout à fait un prétexte pour discuter. Il n'a pas tellement d'importance, finalement. Un sujet, une activité type si vous partiez sur une île déserte ou ce genre de choses, ou un jeu, ou 2. Enfin, voilà, ça se fait un petit peu comme ça se présente. Il peut proposer des débats sur des sujets sérieux ou pas. Et surtout, il s'appuie beaucoup sur la parole des participants. L'idée étant que, bien sûr, il y a un animateur dont c'est la langue maternelle, mais c'est de poser des questions, de distribuer la parole. C'est surtout ça son objectif pendant l'atelier. L'ambiance est tout à fait détendue, conviviale, en tout cas, on essaye. Et l'objectif, c'est vraiment que les gens se mettent à parler en oubliant qu'ils parlent une langue étrangère. Ce que c'est surtout pas, ce qu'on ne souhaite pas que ce soit, ce n'est pas un cours de langue, ce n'est pas un cours de FLE, ce n'est pas l'objectif, ni de langue, ni de civilisation. Donc pas de grammaire, pas de liste de vocabulaire sur une thématique au tableau, pas de lecture de texte ou d'article de presse, pas d'exposé magistral et pas de longue préparation, comme je disais tout. Nous avons un noyau dur de fidèles qui vient régulièrement, certains depuis l'origine, depuis 7 ans. Nous avons des gens qui viennent depuis 7 ans et puis toujours des nouveaux. Donc il y a vraiment un renouvellement du public qui est tout à fait intéressant pour nous. Nous demandons un niveau de langue intermédiaire, ce qui ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout des bases en fait en français, de façon à pouvoir communiquer un minimum, même avec des fautes, ça n'a pas d'importance, mais des bases en français. Forcément, les niveaux sont très hétérogènes, mais on se rend compte que c'est pas du tout un souci. Les plus forts aidant les plus faibles. Enfin, en fait, dans la mesure où c'est pas un cours justement, où c'est un atelier de conversation, les différences de niveau de langue sont pas du tout gênantes. Nationalité, catégorie socio-pro, d'être en France, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Nous se côtoient dans nos ateliers à la fois des doctorants, des étudiants en master 2, européens ou pas, et puis des retraités, et puis des jeunes voilà, qui sont là en attente de papier. Toutes les possibilités sont présentes, et c'est ça qui rend les ateliers d'autant plus intéressants. Donc, grande mixité. Alors évidemment, ces ateliers, je ne l'ai pas dit en préambule, mais je pense que pour vous, bibliothécaires, c'est évident, viennent en complément de nos méthodes de langue que nous proposons depuis 1977, depuis l'ouverture du Centre Pompidou. Et nous incitons bien en complément de ces ateliers, ou les ateliers viennent en complément des méthodes, peu importe. Nous avons aussi une autre médiation qui ressemble un peu à l'atelier de conversation qui est venue dans un deuxième temps, initiée par Raphaël dans la salle que je ne vois pas parce que je n'ai pas mes lunettes, mais voilà, merci. Le Cinéfleu, une fois par saison, nous diffusons un film et ensuite nous discutons au sujet de ce film. Des ateliers d'écriture également, nous avons expérimenté ça l'année dernière, spécial Fleu, très bien marché, on aimerait bien les pérenniser. Et puis en projet, des ateliers qui seraient plus de communication et non plus de conversation, plus adressés à un public débutant. C'est à l'état de projet pour le moment. Pour en savoir plus, site BPI, où nous expliquons bien aux personnes qui sont intéressées par cette médiation comment ça marche, quelle date, comment on s'inscrit, en quoi ça consiste. Le site BPI Pro également, plutôt pour les professionnels, avec notamment des petites astuces, on va dire, pour des idées de jeux, d'activités, de débats que l'on peut lancer en atelier de conversation. Carte au Fleu également, une cartographie de tous les lieux, pour le moment en Ile-de-France, mais nous avons le projet de l'étendre sur la France entière, des lieux où l'on peut apprendre le français en bibliothèque, soit par les méthodes, soit par les ateliers, soit par des cours, soit les trois. Les fiches pratiques de bibliothèque dans la cité, Christine Carrier, notre directrice ce matin, y a fait expliciter, plus d'autres tout aussi intéressantes. Et puis bien sûr, venir discuter avec moi à l'issue de cette présentation si vous souhaitez en savoir davantage. Et avant de vous lancer, si jamais vous passez par Paris, ou je crois que certains ne sont pas très loin de Paris, n'hésitez pas à venir observer un atelier, c'est peut-être la meilleure façon de voir ce que c'est. Vous m'envoyez un petit mail avant, puisque nous avons tellement de demandes d'observation d'ateliers que nous tenons un planning des observateurs. Donc vous m'envoyez un petit mail et on sera ravis de vous accueillir. Et si vous le souhaitez, participez donc à nos formations échanges, les deux prochaines étant le 21 septembre et le 15 décembre prochain. C'est gratuit, mais sur inscription. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation dans les temps. On va écouter maintenant Olivier Hervy, donc, qui va nous présenter un projet qui a été mené à Nantes, un projet de création numérique avec de jeunes migrants. Voilà. Merci. C'est à vous.
Donc bonjour, je m'appelle Olivier Hervy, je suis responsable des services au public et de l'action culturelle pour le secteur centre de la bibliothèque de Nantes, sur la médiathèque Jacques Demy, principalement. Donc je vous remercie de me donner l'occasion de témoigner de cette expérience qui, je dois le dire au préalable, est en cours. C'est un projet que l'on mène actuellement, mais qui n'est pas encore, même s'il est finalisé, il n'est pas abouti, et puisque au niveau du planning, il doit aboutir à l'occasion de l'exposition sur l'encyclopédie des. Donc la médiathèque Jacques Demy, c'est une médiathèque qui a longtemps été la tête de pont du réseau nantais. Elle est située dans le centre-ville, donc l'hypercentre. On la voit ici, elle est en vert. C'est une des bibliothèques des quatre secteurs nantais, et chaque secteur ayant une médiathèque d'équilibre. Alors cette médiathèque Jacques Demy, elle a une double mission, puisque historiquement, elle concentre tous les services centraux du réseau, les services ressources actuellement. Donc elle a une vocation d'être à la fois une bibliothèque du centre sur les îles de Nantes et l'enclave qu'il y a également au sud de la Loire, mais elle est également la bibliothèque du centre-ville de Nantes, qui est 6e ville de France, et elle reçoit donc non seulement les populations de proximité, mais aussi les populations qui séjournent à Nantes ou qui viennent en tourisme à Nantes, ou les gens qui travaillent seulement à Nantes. Donc on a ces deux niveaux de fréquentation. Et en tant que lieu d'accueil, on a été, depuis 2016, on a constaté, trouvé refuge, on va dire, s'installant notamment au poste internet, utilisant les services de la médiathèque et principalement les toilettes, et également séjournant des journées entières l'hiver. Donc on avait repéré dans la bibliothèque ces jeunes migrants qui séjournaient, Et au fur et à mesure d'un dialogue qui s'est noué avec eux, on a pu découvrir qu'ils étaient pour certains suivis par des associations et des animateurs sociaux, et pour d'autres pas du tout. Donc on avait repéré cette suite. Nous avons été contactés par Médecins du Monde en 2016, qui, encadrant ces migrants sur le plan sanitaire, le suivi étant plutôt fait par les CMEA, ces Médecins du Monde nous avaient sollicité pour mettre en place des médiations dans la médiathèque afin d'accueillir des groupes sur un temps donné, de fermeture principalement, pour pouvoir leur faire découvrir la bibliothèque. Donc vous voyez, un travail qui s'est vraiment mis en place sur le temps et pour aboutir à la proposition qui a été faite dans le cadre de l'Encyclopédie des migrants, où l'exposition qui va être mise en place à partir de voir si nous pouvions mettre en place des animations, des médiations avec les partenaires et les jeunes. Donc la médiathèque Jacques Demy. J'ai pas avancé le diaporama en même temps, donc je suis désolé. Donc l'intérieur de la médiathèque. Donc on a donc réfléchi à ce que l'on pouvait mettre en place au niveau des jeunes. Et cette opportunité qui s'offrait à nous de valoriser le contact qu'on pouvait avoir avec eux. Donc on a recherché un projet qui puisse collé à la philosophie de l'Encyclopédie des migrants dans sa globalité. L'Encyclopédie des migrants étant la collecte de témoignages écrits sous forme de lettres, on n'a pas souhaité s'engager dans des ateliers d'écriture ou des témoignages littéraires de ces jeunes migrants. On a plutôt favorisé l'expression artistique sur un mode sensible, comme ça a été dit ce matin. Et on a pris l'option de la photographie afin de pouvoir mettre en place dans la médiathèque Jacques Demy une exposition de photos numériques qui puisse témoigner de la présence de ces jeunes sur le territoire nantais. Donc, vous voyez que l'intention, c'était avant tout de permettre les lieux qui comptent ou qui ont compté dans leur parcours migratoire, et notamment leur arrivée à Nantes. On était parti sur cette optique-là. Donc les objectifs, vous les lisez comme moi, hein, valoriser l'arrivée des jeunes, exprimer par la photographie les difficultés rencontrées, ça pouvait être ça, donner à voir les lieux marquants qui s'inscrivent dans leur parcours, assurer une médiation qui les valorise, et puis créer une interconnaissance entre ces jeunes et les publics de la médiathèque, puisque il y a derrière cette exposition numérique qui sera installé sur écran dans la médiathèque Jacques Demy, cette intention d'interpeller les publics qui fréquentent, et je vois ensuite une animation relativement simple avec un budget de 800 €. On était parti sur l'idée d'une carte numérique interactive au départ, mais là on ne tenait pas le budget. Donc des appareils photo jetables, l'utilisation des téléphones pour ceux qui en avaient. On a distribué des tickets de bus pour qu'ils puissent se rendre mobiles. Et puis boissons, etc. Et l'imagination, la réactivité, l'enthousiasme des équipes. C'est aussi des moyens que l'on mobilise. Et l'équipe de service au public de Jacques Demy est bien mobilisée à ce niveau-là. Donc le calendrier s'est organisé, on a remédiaire des partenaires qui les suivent. Donc ceux qui sont sous tutelle du Conseil Général sont suivis par le foyer Saint-Benoît-Labre, et ceux qui ne rentrent pas dans le dispositif de tutelle du Conseil Général, parce qu'il y en a sur Nantes, beaucoup, qui vivent dans la rue, dorment dans des squats, se nourrissent comme ils peuvent, mais ces jeunes-là sont plutôt suivis par les CMEA, et une structure autogérée avec laquelle nous collaborons, qui s'appelle le B17, et qui fait tout un travail de terrain auprès de ces jeunes. Donc un premier groupe les 12 mai, un deuxième. Donc beaucoup de pédagogisation, déjà donné à comprendre l'intention, chercher à les mobiliser, les motiver. et puis l'intervention d'un partenaire qui s'appelle Étrange Miroir, qui est une association nantaise qui travaille beaucoup auprès de la population migrante et qui a donc été sur devis, financée par la médiathèque, pour récolter ces photos. Donc là, on assiste par exemple à la récupération des photographies sur la collecte de ces photos, des captations sonores des jeunes qui souhaitaient s'exprimer sur les photos qu'ils avaient prises, pour pouvoir également illustrer les photos qui seront diffusées dans la médiathèque par de courts témoignages, de courts extraits de voix, et puis également des séances de jeu, de la convivialité avec ces jeunes qui ont passé la journée sur Jacques Demy, encadré par Héloïse qui est dans la salle et qui sera présente tout à l'heure sur le forum, et une autre collègue qui est Julie. Et puis essayer de leur faire repérer sur un plan de Nantes, un plan punaise, avec des gommettes de couleur, pouvoir repérer sur la ville les endroits où les photos ont été prises. Voilà. Donc ce projet qui n'est pas abouti, puisqu'on est pour le moment, on a fini la collecte, Étrange Miroir est en train de travailler à l'élaboration du document numérique qui sera diffusé sur écran. C'est à ce niveau-là, rapidement je termine, une expérience positive, puisque c'est au cœur de nos missions d'accompagner, de comprendre et d'écouter nos publics pour mieux répondre. Une co-construction, puisque cette expo s'intègre dans une démarche collaborative qui nous oblige à nous interroger nous-mêmes sur nos missions et nos pratiques. Malgré la barrière de la langue, certains sont anglophones, d'autres allophones, les barrières culturelles, quand on organise un pot de convivialité en plein ramadan, par exemple. Donc voilà, ça nous oblige à nous comprendre et à surtout à nous interroger sur le regard que l'on peut porter aux autres, et puis voir également rapport à l'autre. Donc ça, on a renforcé à travers ce projet les contacts qu'on pouvait déjà avoir avec les partenaires accompagnant ces jeunes, et puis sont ressortis de cette expérience l'idée d'avancer sur d'autres projets après l'exposition numérique et d'autres projets à destination de ces jeunes. Voilà.
Merci beaucoup, Olivier Harvy. Je vais passer la parole à Rosane Page, qui travaille à la bibliothèque de Saint-Marc.
Alors, moi, je vais vous parler donc d'un cycle d'animation que nous avons mis en place donc, à la médiathèque de Saint-Marc autour des populations migrantes. Donc, nous avons fait ça au premier trimestre 2017. Donc, le désir est né d'une envie de donner une autre image, une image plus positive que celle qui est parfois véhiculée pour ces populations-là. Donc, c'est pour ça que nous l'avons intitulée « La journée festive sans frontières », donc en mettant le mot « festif » au centre de l'intitulé et de nos préoccupations. Nous avons donc voulu mettre l'accent sur ce qu'est leur culture. Et puis, bien entendu, donc mettre l'interculturalité au cœur de nos missions de bibliothécaire. Nous avons donc axé notre action culturelle autour du dialogue, du respect mutuel et de la préservation de l'identité culturelle de chacun. Donc c'est vrai qu'on a longuement débattu au sein de l'équipe pour trouver l'axe en fait de ce cycle d'animation. Tout d'abord, on voulait donner un axe un peu informatif sur la situation des migrants en France. Et comme je le disais tout à l'heure, donc très vite on s'est dit on veut donner une autre image. On voulait de la musique, on voulait des chants, des textes porteurs d'espoir. Donc voilà, une fois qu'on avait décidé ça, après il fallait se mettre au travail. Donc la plus grosse partie du travail, ça a été la recherche de partenaires. Donc on s'est rapproché de l'association brestoise Langue du Tonnerre, donc qui a participé à l'encyclopédie des migrants sur le territoire brestois. Par ce biais-là, on s'est rapproché de la BAF et d'autres associations locales qui œuvrent pour l'accueil des migrants sur le territoire brestois. Donc notre projet s'est vraiment construit main dans la main avec les partenaires qui nous ont vraiment été précieux et qui nous ont mis en relation avec les migrants. Ils ont été centralisés sur une journée, donc c'était un samedi, le 4 février. Mais en amont de cette journée, donc on a accueilli une exposition dans le cadre du festival de photos Plus d'images, et donc avec un photographe arménien qui s'appelle Julien Lombardi. Donc on a organisé une table ronde, voilà, pour nous parler de, il nous a parlé de, ça, de la culture arménienne. Donc voilà, donc ça c'était en amont de la journée. La veille donc du 4 février, on a convié une classe de CM2 autour d'une rencontre philosophique avec Yann Marchand qui a introduit cette journée d'études. Donc c'est vrai que Yann Marchand a réussi à leur vision donc des frontières au sens large comme au sens figuré. Et c'est vrai que le débat a été très riche et fructueux. Donc, les frontières ont par exemple été comparées, comme il disait ce matin, à des portes, les portes d'une maison qu'on peut ouvrir ou qu'on peut fermer. C'était très explicite pour eux, en fait. Donc c'était vraiment intéressant. Et donc le jour J, donc le 4 février, donc, on a commencé la journée par notre traditionnelle heure du conte, donc, qu'on appelle le petit bouquin. Donc c'est des lectures à partir de 3 ans. Donc là, on avait fait une sélection de livres autour de la tolérance, de la solidarité. Alors notre volonté première était de lire à deux voix, enfin de traduire en fait les textes par des migrants. Mais hélas, on n'a pas trouvé de lecteur disponible. Donc voilà, on a. Mais bon, si c'est à refaire, on approfondirait cet aspect-là. Donc à la suite de ces lectures, on a enchaîné avec des dégustations de plats d'autres pays dans le hall d'accueil de la médiathèque. Donc c'est ainsi que quelques migrants ont cuisiné des plats de leur pays. Donc on avait une femme du Daghestan, une autre du Kazakhstan et un Sénégalais qui nous ont fait goûter leurs plats. Alors je vous épargnerai la diction de ces plats que je risquerai de décorcher. Donc voilà, c'est vrai que les usagers ont là de goûter des plats d'autres pays, puis de partager les recettes. Et ça, les trois personnes, les trois migrants qui étaient là, c'est vrai qu'on était vraiment satisfaits, ils se sentaient valorisés. Et voilà, donc c'était un beau moment. Alors pendant cet atelier culinaire, donc on a eu un danseur vénézuélien qui nous a proposé un cours de salsa. Donc, alors voilà, le moment était très festif, on s'est tous mis à danser et les usagers étaient donc accueillis dans le hall d'accueil en musique et en danse et bien souvent, s'ils le souhaitaient, donc ils participaient également au cours. Donc voilà pour le matin. L'après-midi, on a débuté. Donc il y a une dizaine de migrants qui ont participé à l'encyclopédie, qui ont lu leurs témoignages qu'ils avaient écrits pour l'encyclopédie. Donc Comme on le dit ce matin, c'est des témoignages qui étaient écrits sous forme de lettres écrites à un de leurs proches restés au pays. Donc eux le lisaient dans leur langue natale et après on le traduisait dans un second temps en français. Donc c'est vrai que ça permettait d'apprécier la musicalité de leur langue et même sans comprendre le sens, c'était très très chargé en émotions. C'était un très très beau moment. Et voilà, donc on avait ponctué ces lectures de chants, a cappella, de musique. Et d'un cours de chinois. Voilà, il y a un chinois qui nous a donné un petit cours. Donc c'était un aspect, c'était très très ludique. Du coup, ça marque une succession de lectures. Et donc pour finir la journée, nous avons fait un coup de projecteur sur les initiatives locales d'accueil de migrants, donc sous forme de table ronde. Donc nous avons réuni des associations locales qui œuvrent pour l'accueil des migrants sur le territoire brestois. Donc on avait donc l'association d'Iguémer, qui est une association brestoise qui accueille des migrants. Association Accueil Solidarité Saint-Urbain. Donc, qui est une association donc, qui accueille deux familles, une du Daghestan et une d'Albanie, donc sur la commune de Saint-Urbain. L'association Solidarité, là aussi pour la BAF. Alors c'est vrai que le seul bémol de cette journée, c'est que comme on a enchaîné les lectures plus la table ronde, c'est vrai qu'on avait beaucoup moins de monde pour la table ronde. Je pense que si c'était à refaire, et je pense que c'était un peu trop ambitieux en fait sur la longueur. Je pense que ça a duré 4 heures au total. Donc voilà. Donc c'est vrai que si c'était à refaire, on le ferait peut-être en deux temps, la table ronde dans un second temps. Voilà, donc pour conclure, c'est vrai qu'on garde un très bon souvenir de cette journée. On a eu des très bons retours des usagers qui ont vraiment apprécié d'échanger, de découvrir d'autres cultures, et qui ont apprécié aussi de manger, de danser à la médiathèque. Et puis c'est vrai que ça a ouvert des portes. L'autre jour avec Armel, on se disait qu'on aimerait bien développer un partenariat plus important entre nos deux structures. Donc voilà, il y a encore beaucoup de pistes à creuser et voilà, on va aller dans ce sens-là. Merci.
Alors, Rosane a l'art de la transition.
Bonjour, donc je suis Armel, coordonnatrice à la BAF. C'est l'association brestoise d'alphabétisation et d'apprentissage du français pour les étrangers. Donc c'est une association loi 1901, ce qui nous laisse une bonne emploi. Donc on a un conseil d'administration. Ce qui est important, c'est que comment, par rapport à beaucoup d'actions qui se passent sur le territoire, dans le conseil d'administration de la BAF, il y a des personnes qui viennent donner des cours de français, que nous appelons les formateurs. Nous avons des salariés de la BAF, mais nous avons aussi les personnes qui sont en apprentissage du français. Alors, apprentissage du français, soit en français langue étrangère ou alphabétisation. Alphabétisation, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été très très peu ou pas du tout en fait scolarisés dans leur pays d'origine. Voilà. Donc, ça présage déjà de la grande diversité en fait dans l'association, puisque leur pays d'origine. Et qui a augmenté actuellement. On a aussi des personnes en français langue étrangère, donc qui ont de grandes capacités d'apprentissage, qui ont été bien formées dans leur pays d'origine et qui donc s'adaptent tout à fait aux méthodes de français langue étrangère diverses, variées, puisque c'est étudié à l'université. Donc ça donne beaucoup de billes en fait pour les formateurs. Voilà. Donc on est soumis aux politiques publiques, même si on est une association loi 1901, on travaille quand même avec des financements publics qui évoluent beaucoup. L'association date de 99, et de 99 à politique tourne, les politiques changent. Donc on essaie nous de s'y adapter, parce que même si on a une grande liberté dans le montage de nos actions, dans nos choix, on répond aussi à des commandes publiques. Voilà. Notre liberté, en fait, ce sont nos choix d'abord de méthode et de pédagogie. C'est très vaste. On a une grande chance à la BAF, c'est d'abord de travailler en réseau. Il y a beaucoup d'acteurs sur Brest qui ne demandent qu'à participer, mais aussi de travailler en interne avec des gens formés, d'abord, et aussi une bibliothèque thématique. Donc la bibliothèque thématique, c'est actuellement avec l'UBO, parce qu'il nous arrive de recevoir des étudiants en master français langue étrangère, mais autrement c'est une bibliothèque en fait bien achalandée qui est ouverte à tous les adhérents de l'association. Adhérents très nombreux, parce que à côté des 90 formateurs donc qui sont formés en interne, mais aussi par des formations menées par des professionnels de l'apprentissage de la langue, on a aussi des apprenants qui profitent de cette bibliothèque thématique. Et les apprenants, ce sont à peu près 900-950 personnes qui ont circulé dans nos locaux cette année. Donc nous, on travaille dans un quartier qui est en zone prioritaire pour ce qui est de nos locaux administratifs et puis notre bibliothèque thématique, une partie de nos cours. Et autrement, on donne les cours sur différents quartiers, sur Brest, dans les MPT, les centres sociaux, qui sont nos partenaires, en fait. Nos partenaires, enfin, voilà. Donc, cette bibliothèque thématique, en fait, elle est très, très importante, même si elle ne se suffit pas à elle-même, hein, et que le réseau des bibliothèques, nous travaillons, par exemple, un peu avec la bibliothèque de Pontanézen, puisqu'elle est juste la médiathèque qui est juste à côté de chez nous. Voilà. Comment... Mais c'est quand même un outil formidable, déjà, comment pour les personnes qui viennent y travailler, parce que c'est une valorisation, en fait, comment de travailler dans un lieu dédié à la culture, c'est très, très valorisant, surtout pour des gens qui n'ont pas été beaucoup intégrés dans le système scolaire, ou pas du tout. Donc voilà, c'est un lieu qui inspire un peu, comment, voilà, comme ça, le calme, la concentration, l'échange, tout en douceur, donc ça nous convient très bien. Comment, ce sont aussi des cours très classiques, en fait, hein, comment, c'est une base de deux fois deux heures par semaine, avec des professeurs dédiés, comment, avec donc voilà une progression tout au long de l'année scolaire, mais comment ce sont aussi beaucoup d'ateliers complémentaires. Alors par exemple, on a beaucoup parlé de ressources, comment faciliter l'apprentissage des personnes et surtout l'auto-formation. Parmi nos ateliers, par exemple, on a des ateliers d'informatique avec comment des logiciels, ce sont nos propres ressources. Mais comment ces ateliers informatiques, c'est d'abord de la médiation, en fait, pour aller justement vers cette auto-formation. Parce qu'on a beaucoup de gens qui arrivent devant l'ordinateur et qui commencent par soulever la souris, si vous voulez. Et donc, voilà, très très vite, en fait, comment, même pour des gens qui n'ont jamais été scolarisés, c'est un outil qui est comment, formidable, en fait, pour aller à son propre rythme, pour prendre de l'autonomie, et donc accéder à une certaine littératie, en fait, qui est vraiment très très importante pour pouvoir après, justement, aller dans un, ouvrir une porte dans un lieu public et s'y sentir assez à l'aise, pas de soi, et voilà. Mais ça, ça se construit. Et comment, et c'est peut-être là que la BAF est vraiment un lieu d'accueil qui est souvent pour les gens aussi une première entrée, en fait, comment, dans notre société. Voilà, parce qu'on a des gens qui arrivent d'un peu partout, pour certains qui sont depuis longtemps en France, d'autres qui viennent d'arriver. On a aujourd'hui une nouvelle configuration. Comment on a un peu toujours suivi, en fait, les mouvements, comment, de les grands mouvements d'immigration sur Brest depuis quelques années, comment immigration sur Brest qui, en fait, rapporte à la géopolitique, hein, puisqu'il y a eu les Balkans, les gens des Balkans qui sont arrivés, il y a eu comment, enfin, les anciens pays du RSS sont arrivés, hein, beaucoup de gens sont arrivés à Brest aussi. Comment, des Tchétchènes. Bon, maintenant on a beaucoup de gens, en fait, évidemment l'année dernière, qui viennent de ces nouveaux conflits Proche-Orient, c'est-à-dire des Syriens, des Irakiens, comment, et beaucoup maintenant des gens qu'on a, comment, qui devient, en fait, qui nous pose encore des questions sur nos capacités d'accueillir, de bien accueillir les gens, parce que ce sont des gens qui viennent de pays qui sont en conflit depuis très longtemps, des Soudanais, des Érythréens. Des gens d'Afghanistan. Alors, comment, on n'a jamais de difficultés, comment, de, on est dans un état amène, comment, à, voilà, un bon esprit pour être ouvert et en éveil pour l'apprentissage. Donc ça, c'est très important. Les gens se respectent. On voit en cours, un cours, c'est, mettons, 10-15 personnes, grand maximum. On a 15 nationalités sur le cours, avec des gens assis l'un à côté de l'autre qui viennent de pays qui sont en conflit, des fois, comment, irakiens, voilà, syriens, assis, c'est vraiment une grande, grande multitude, et ça se passe toujours, toujours dans un grand respect. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très important, et, comment, et c'est ce que nous, on appelle, en fait, on n'est pas du tout dans l'assimilation, donc notre grand outil de travail, c'est quand même l'interculturalité. Pour nous, en fait, des échanges. C'est-à-dire que si nous, on veut bien accueillir l'autre, il faut déjà qu'on puisse le comprendre, trouver un terrain d'entente pour se parler. Des fois, bah, les mots ne sont pas là, parce que comment, il y a des gens qui sont des grands débutants. Comment comprendre la culture de l'autre et faire comprendre sa culture, c'est aussi amener des billes aux gens pour qu'ils sachent, allez, on va dire ça rapidement, à quelle sauce ils vont être mangés en arrivant ici. Voilà. Et donc, il faut qu'ils sachent quand même comment on parle d'eux, les problèmes que ça pose aussi à notre société. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de très, très large, en fait. Voilà. Et on essaie, en tous les cas, comment, d'amener les gens aussi à une réflexion qui les pousse à participer après à la société civile. Et comment, bon, pour la BAF, de toute façon, vous aurez notre contact si vous voulez voir nos méthodes. On a beaucoup, beaucoup d'ateliers, des ateliers, ben, justement, d'oral, comment, un atelier théâtre. La prof de théâtre, d'ailleurs, s'excuse, elle aurait voulu être ici aujourd'hui, mais elle est sur d'autres actions. Donc c'est de l'informatique, ce sont des discussions, ce sont des ateliers d'écriture aussi. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de méthodes pour faciliter l'apprentissage et puis donner à chacun en fait la possibilité de pouvoir évoluer dans la langue. Ce qui est important aussi, très important à la BAF, c'est la formation des acteurs. On a des personnes qui veulent être porteurs de cohésion sur la cité. C'est pour ça qu'ils nous ont une grande curiosité intellectuelle, qui tiennent à se former, qui sont pour l'accueil, mais qui eux-mêmes, des fois, de par leur expérience, se sont retrouvés aussi dans des difficultés dans un autre pays. Voilà. Pour ce qui est aujourd'hui des politiques publiques, c'est très compliqué. Je pense que ça pourrait donner lieu à un autre débat. Je peux vous dire que nous, aujourd'hui, par exemple, pour la langue, on a essayé de nous imposer d'apprendre aux gens, non pas un français langue étrangère, mais un français langue d'immigration, ce qui pose question. Voilà. Nous ne travaillons pas directement pour ce qui est des politiques de l'État, en fait, actuellement. Donc, nous, en fait, on est financés par les politiques publiques, conseils départementaux, des personnes qui arrivent sur le territoire. Mais aussi par l'État. Avant, on travaillait directement avec la cohésion sociale. Aujourd'hui, on travaille avec le ministère de l'Intérieur et donc avec l'OFI. Donc, on n'est plus dans le ministère de l'Identité nationale et tout ça, mais les politiques publiques pour les migrants, pour l'accueil, sont de plus en plus tracées, fléchées, et je dirais, rétrécissent aussi, l'impact en fait qu'il devrait y avoir pour recevoir les nouvelles populations, parce que par exemple l'État ne finance actuellement que des gens qui viennent, qui sont arrivés donc hors communauté européenne, qui ont signé leur contrat d'intégration républicaine aujourd'hui et leur offre des heures de français, ce qui est déjà formidable, hein, faut pas non plus dénigrer complètement, mais des heures de français qui donnent en fait dans le cadre européen des langues un niveau A2, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'iront pas assister aux ateliers de langue de la bibliothèque à Paris, parce qu'ils n'auront pas le niveau de langue nécessaire pour le faire, qui ne pourront peut-être pas non plus accéder très facilement à tous les rayons de la médiathèque, hein, parce qu'ils n'ont pas le niveau de langue, simplement. Et je peux vous dire qu'avec un niveau A2, que vous auriez par exemple en japonais, vous, des personnes bien formées et qui ont beaucoup, beaucoup de capacités en fait, de nouvelles cultures, vous ne seriez jamais embauché, même pas pour nettoyer les locaux de la bibliothèque, tout simplement. Voilà. Donc, je veux dire que tout ça a ses limites et c'est vrai qu'il faut amener en fait, le plus possible à pouvoir donner des possibilités aux gens d'aller après vers l'auto-formation, voilà, pour continuer à évoluer dans la langue. De toute façon, c'est la première solution pour s'en sortir quand on est accueilli sur un nouveau territoire. Très très rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, et je sais que je suis assez bavarde, mais on a participé donc l'année dernière à la BAF, à l'Encyclopédie des migrants, donc un projet européen. Pour nous, c'était vraiment très très important. Ça faisait déjà des années, on s'interroge beaucoup, parce qu'on est vraiment dans l'accueil, la convivialité avec les personnes qu'on reçoit, de ce que c'était que ce mot l'exil. Alors, on sentait une souffrance, on sentait aussi des fois une frénésie d'une nouvelle culture à connaître. Mais toujours derrière ce mot-là, quand même, beaucoup de choses, on ne savait pas comment exprimer ça. Et donner en fait la parole aux personnes qui viennent à la BAF. Donc, quand l'occasion s'est présentée, que l'âge de la tortue, de Paloma et Antoine nous ont contactés, nous, on était très, très heureux de participer à ce projet pour donner la parole, justement, aux migrants directement. Alors, ça aurait pu se faire sous forme d'atelier d'écriture. En fait, nous, on a choisi que les personnes qu'on reçoit à la BAF, donc de travailler, par exemple, aussi avec un peu le collectif Langue du Tonnerre, simplement pour faire des réseaux comme ça et pouvoir connaître des gens qui sont, pour de multiples raisons, sur Brest. Ça nous a quand même donné l'occasion, le fait qu'il y ait que ce soit très, très structuré comme projet, de pouvoir autant atteindre des gens qui, une fois qu'ils s'étaient emparés du projet, ont pu écrire en toute autonomie, que des personnes qui ont été vraiment accompagnées sur leur écriture. Et donc, comme en conseil d'administration à la BAF, on a des gens qui n'ont jamais été scolarisés et qui participent pleinement à la vie associative, il y a des gens aussi qui ont écrit dans l'Encyclopédie des migrants pour Brest, qui sont analphabètes, mais qui ont été accompagnés et qui, je pense, ont été en étant accompagnés dans l'écriture. Voilà. Et donc, pour nous, c'était un très beau projet. J'espère qu'il y aura des suites. Comment, c'est ce qu'on a dit à la remise de l'encyclopédie, que comment, ben, c'était très, très intéressant que la société civile et puis le monde un peu des savants comment, voilà, s'emparent de ce thème-là ensemble. Comment, et que la parole soit premièrement laissée aux migrants, parce qu'en fait, migrant, ben, ça veut tout dire, ça veut rien dire, surtout dans une ville comme Brest, qui a, comment, et quand on parlait tout à l'heure de l'immigration en Bretagne, d'abord, comment, la région brestoise, c'était comment, une région d'émigration et non pas d'immigration. Hein, comment la Bicassine, c'est une région comme ça qui est quand même marquée aussi par une histoire comment, qui. Voilà. Hein, qui change, mais qui est très très proche en fait. Donc voilà, je me tais. Je vous
remercie. Non, surtout qu'il y aura la partie forum où vous pourrez tout expliquer. Ben, merci beaucoup. On va laisser la parole alors sur les livres vivants, donc un projet rennais, à Hélène Le Goff, qui est bibliothécaire au Champ Libre à Rennes, et à Chêne Lavigne, qui est coordinatrice du festival Migre en scène et bénévole au sein du groupe rennais de la CIMAD. Elles ont un PowerPoint.
On va vous présenter aujourd'hui un projet partenarial entre le festival Migre en scène et la bibliothèque des Champs Libres pour la création donc d'une bibliothèque vivante. Alors.
Problème de télécommande. Sans les bras tendus.
Donc, comment, je vais vous resituer vite fait la place des bibliothèques vivantes dans la programmation des Champs Libres, donc de la programmation de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque a pour mission des questions de culture, des questions de société ou de science. Et donc, il y avait une volonté de proposer des formats d'échange plus participatifs et comment, plus conviviaux. Donc, très vite, on a mis en place des paroles d'association pour donner la parole à des associations et permettre un dialogue plus rapproché avec le public. Et donc avoir un format moins descendant que les conférences. Et ces paroles d'association ont évolué l'année dernière vers des bibliothèques vivantes avec lesquelles on s'appuie également sur une association et pour la bibliothèque vivante sur le thème des migrations. Voilà, la rencontre s'est faite avec la CIMAD et on a travaillé toutes les deux avec Chêne pour la constitution de cette bibliothèque. Donc, je laisse la parole à Chêne pour le festival. Elle va vous présenter le festival Migre en scène. Et on a un petit teaser, une petite vidéo à vous présenter. Sur.
Alors, on espère qu'il va fonctionner. Mais je vois, tout le monde s'agite en régie. Ah, je pense que non, c'est vraiment... On va écouter Chêne déjà.
Donc bonjour, donc moi c'est Chêne, je suis militante à l'association pour l'association La CIMAD. Donc mobilisation. Juste un tout petit mot sur La CIMAD, c'est une association nationale qui soutient et vient en aide donc aux personnes migrantes qui arrivent en France, notamment sur la défense de leurs droits. Donc on les accompagne surtout sur dans leur démarche administrative et on est présente. On est présent dans les lieux d'enfermement, surtout, présent pour soutenir et aussi pour dénoncer. Donc, ça me semble important de spécifier que c'est une association, pour moi en tout cas en tant que militante, qui se veut être un pilier de transformation sociale et de contre-pouvoir politique. Le pôle sensibilisation, donc, c'est... porte bien son nom. Hein. L'idée est d'aller sensibiliser les personnes donc, aux questions de migration pour faire changer les choses. Et donc, dans cette mission-là, on a le projet d'un festival qui a lieu tous les ans pendant une semaine au mois de novembre qui s'appelle Migre en scène. Donc on avait un petit teaser pour vous le présenter, ça montrait un petit peu les différentes formes d'événements qu'on peut proposer, donc c'est assez varié parce qu'on a vraiment la volonté de toucher le plus large public possible, donc ça va des enfants aux adultes, aux quartiers populaires, on a des formats type plutôt théâtre. C'est varié et donc l'année dernière, pour la première fois, on a imaginé donc en partenariat avec les Champs Libres une bibliothèque vivante parce que aussi l'une de nos grandes préoccupations, c'est de faire avec les personnes premières concernées, donc de réfléchir ensemble aux problématiques et comment on y répond et donc. Le principe de la bibliothèque vivante, c'est vraiment de laisser la parole aux personnes concernées et de proposer un temps de rencontre et d'échange. Donc c'est un temps assez... Je ne sais pas si... Je te redonne la parole du coup pour expliquer comment ça s'est passé.
Alors, on va... On continue peut-être sur le PowerPoint et puis on reviendra sur le teaser du festival quand il va se lancer. Donc les bibliothèques vivantes, c'est pour nous vraiment l'occasion de donner la parole à des personnes sur des sujets de société. Et de provoquer des rencontres. Les échanges se font en tête à tête, donc sur un format de 20 minutes. Rencontre humaine, l'écoute de l'histoire d'une personne. Ça n'est pas une tribune, ça n'est pas un endroit où on vient revendiquer un propos. On est vraiment dans l'échange, la rencontre. On y vient... presque comme on viendrait écouter une histoire. Et c'est des moments vraiment très intenses, très forts en émotion, pour le livre vivant ou pour le lecteur. Donc voilà, on a assisté vraiment à de très très beaux échanges. Hop. Donc...
Du coup, peut-être concrètement, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est une bibliothèque vivante.
Non.
Il n'y a jamais. donc en fait, juste pour avoir une idée un peu précise, l'idée c'est de... donc on parle de livre vivant, donc c'est une personne qui vient avec son histoire, donc le public de la bibliothèque, les usagers viennent plutôt que d'emprunter un livre, emprunter une personne. Alors on met des gros guillemets, on essaye de ne pas objectiser évidemment les gens, donc c'est bien expliqué. Mais donc voilà, donc comme le disait Hélène, tête à tête, donc c'est vraiment une personne... détenteur d'une histoire et une personne qui vient écouter. Et donc, c'est l'occasion d'échange, de partage. Donc concrètement, comment ça s'est mis en place ? Donc, c'est là qu'est important le partenariat, comme le soulève souvent Hélène, c'est que, du coup, en tant qu'association, on est directement en lien avec les personnes concernées, on a déjà des relations fortes avec eux, avec elles, et donc, moi, mon travail, vraiment, ça a été un long moment de plusieurs mois d'aller voir les personnes, de leur expliquer le projet. Trois rendez-vous au Champ Libre, où on a vraiment discuté, c'était pas nous qui proposions une forme préétablie. D'ailleurs, moi, j'avais imaginé des choses et finalement, ça s'est pas du tout passé comme moi je l'aurais envisagé. Donc, c'était vraiment une construction commune qui a été prise en main par les personnes concernées pour en faire ce qu'elles avaient envie d'en faire. Concrètement, moi, par exemple, je m'étais dit, en fait, ça va être une occasion de se rencontrer, une occasion d'échange. J'avais vraiment l'envie que on dépasse le stigmate de l'identité de migrant, de personne migrante, et de se dire, on est tous les mêmes, et donc là, on va pouvoir des hobbies, sur des loisirs, sur la famille, sur ce qui touche le cœur des gens. Et donc, j'avais proposé ça comme porte d'entrée un peu. dans les histoires. Et finalement, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Les personnes ont vraiment eu envie de parler de leur parcours, de leur histoire migratoire, pour le coup. Et c'est vraiment ce dont elles avaient envie, ce dont elles avaient besoin, de ce temps de parole, de cette place de parole pour raconter ce qu'elles ont vécu, que ce soit avant de partir, que ce soit sur le chemin ou que ce soit en arrivant. C'était assez varié. Mais voilà. Et bon.
Et donc, lors de trois réunions, l'idée, c'est de faire émerger un récit qui sera la base du tête-à-tête de 20 minutes avec les personnes qui viendront rencontrer les livres vivants. Et donc, de formaliser, d'écrire un petit texte, de mettre un titre sur comment ce qu'on va raconter. Donc, ça a été l'occasion d'échanges vraiment très, très intéressants entre toutes les personnes, entre donc, nous qui étions plutôt organisateurs et puis les différentes personnes qui étaient livres. Vraiment beaucoup d'échanges entre eux, s'aider les uns les autres aussi. Ceux qui avaient un peu une appréhension à parler, à prendre la parole et comment ça va se passer, qui c'est qui va prendre la parole le premier, comment. Et là, on a eu vraiment de l'entraide, hein, vraiment, c'était très très intéressant. Et donc on arrive, vous ne voyez pas et vous avez perdu une partie de...
Si, alors Hélène, je crois qu'on peut, on peut lancer le teaser éventuellement, si vous êtes prête. C'est bon ? On lance le teaser ?
Eh ben non. D'accord.
Eh ben mince.
Cette vivante ne contient pas de livres en papier. Les livres sont des personnes et les chapitres des expériences de vie. Des citoyens engagés dans la vie de la cité partagent leur parcours et leurs émotions, devenant le temps d'un après-midi, livre vivant.
Pourquoi ça t'intéresse d'être un livre qui s'ouvre là aujourd'hui?
Très différent des conférences que je fais d'habitude avec beaucoup de monde. Je pense que, j'espère que les questions vont être beaucoup plus personnelles et que je vais pouvoir être inspirée par ces gens que je vais rencontrer aujourd'hui.
Moi, je fais de la peinture, des tableaux, des fresques, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai déjà l'habitude d'avoir un contact avec le public, entre guillemets. Et faire partie aussi d'être inséré dans un cadre vis-à-vis des champs libres aussi, c'est intéressant. Ça fait soit une visibilité, soit ça permet de s'exprimer aussi vis-à-vis du citoyen, d'expliquer son travail. Je trouve ça intéressant aussi, parce que souvent, l'artiste peintre travaille dans son atelier, expose ses œuvres terminées, et soit il n'est pas là, donc il ne peut pas expliquer son travail, c'est aux gens de se faire leur propre analyse. Donc là, c'est l'occasion aussi de se confronter au public et que le public puisse poser des questions pertinentes.
Donc, en fait, c'est pas le bon
fichier. C'était pas le bon fichier, c'était
c'est
bien.
C'est quand même une bibliothèque vivante. C'est quand même une vidéo vivante. Pour compléter au moment du forum, pour ceux qui voulaient avoir plus d'informations sur le format bibliothèque vivante. On avait la possibilité de vous montrer cette vidéo d'une autre bibliothèque vivante. Donc,
c'est ce qu'on appelle essuyer les plâtres.
Voilà,
on est vraiment
mais c'est
désolé.
Pas grave. Du coup, si on a possibilité d'avoir l'écran, non. On aurait pu vous montrer quelques photos de la bibliothèque vivante pour le festival Migrants en scène, hein, mais je ne sais pas si on peut récupérer l'écran.
Et l'écran. Non.
Donc.
Non, ce ne sera pas possible.
C'est pas possible.
On est désolé.
D'accord. Donc,
on va peut-être pouvoir installer
un ordinateur au forum.
On va installer un ordinateur dans le forum, comme ça. Parce que là, de toute façon, on arrive. Oui. Je ne sais pas si vous aviez
donc,
terminé.
Si, on va
merci.
Conclure.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, de toute façon. Alors oui, un grand bravo à tout le monde parce qu'on sait très bien que faire tenir comme ça en 10 minutes des expériences et des projets, c'est toujours très compliqué. On est tous très bavards. Donc, ce qu'on voulait vous proposer, très concrète, vous avez peut-être envie d'adapter certaines idées dans vos bibliothèques, de savoir, d'avoir des éléments vraiment simples, concrets. Donc, on va vous inviter à nous rejoindre sur... On a aménagé un petit espace forum. Donc, tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui vont avoir leur petit espace et l'espace aussi de présenter et de converser avec vous et de répondre à vos questions. En tout cas, merci à tous et vraiment désolé pour les questions techniques. La prochaine journée d'études, on fera mieux. Merci encore.